Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 avril, Élysée 2022, les candidats face au 7-9, c'est la dernière de nos matinales spéciales avec les qualifiés au second tour de l'élection présidentielle. Notre invité ce matin est Emmanuel Macron, de 8h20 à 9h30, posez-lui, amis auditeurs, vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000, vous aurez très largement la parole tout à l'heure. Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la dernière ligne droite des candidats en campagne qui s'arrêtera ce soir à minuit en métropole. Dernier déplacement, dernier meeting. L'enjeu pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mobiliser les abstentionnistes. Les autres titres, Laurence.
Olaf Scholz, le chancelier allemand, sommet d'aller plus loin pour aider l'Ukraine. Les critiques de l'opposition allemande, de ses partenaires européens ou de la presse s'accumulent contre lui. Olaf Scholz, jugé trop timide dans ses démonstrations de soutien à l'Ukraine. Une soixantaine de jeunes victimes de piqûres en boîte de nuit, phénomène inquiétant qui existe déjà depuis 2 ans en Angleterre. Et dans ce journal, nous reviendrons sur la disparition de Jacques Perrin, mort à 80 ans, et sur cette beauté de la nature qu'il a filmée comme personne.
Et à 7h45, Thomas Piketty, Dominique, se débat ce matin sur 2 clivages majeurs entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, l'Europe et l'écologie.
France Inter. Ultime jour de la campagne officielle du second tour de la présidentielle. Emmanuel Macron donné gagnant dans les enquêtes d'opinion et Marine Le Pen jette leur dernière force dans la bataille. Marine Le Pen mettra un point final à sa campagne à Abbeville dans la Somme, ville où elle est arrivée en tête au premier tour devant son adversaire. Et hier soir, la candidate du Rassemblement National tenait à Arras son dernier meeting, un meeting Élodie Forêt aux allures de tout sauf Macron.
À quelques secondes du meeting, ils sont nombreux hier soir à regretter le manque de répondant de Marine Le Pen lors du débat contre Emmanuel Macron.
Elle s'est retenue, elle a rangé son frein, mais c'est vrai que nous, derrière le téléviseur, on disait « mais rentre-lui dedans !» C'est vrai qu'on avait quand même envie qu'il prenne quelques coups de pied sous la table. Quoi.
Alors, des uppercuts, c'est hier soir que la candidate en distribue, fustigeant d'entrée de jeu l'arrogance sans limite de son adversaire et appelant au référendum anti-Macron.
Puisqu'Emmanuel Macron a voulu réduire ce rendez-vous à un référendum, banco ! La question sera finalement assez simple. Macron ou la France ?
Emmanuel Macron a eu sa chance, il a échoué, poursuit Marine Le Pen, s'auto-proclamant comme la voix et l'âme de la majorité silencieuse face à l'élite. Discours populiste qui s'achève par une longue et inédite supplique au peuple de France.
Peuple de France, l'heure est venue du grand sursaut national. Peuple de France, l'heure est venue pour toi d'aller demander des comptes à tous ceux qui t'ont méprisé. Et leur dire en face, vous nous avez abandonnés, vous nous avez ruinés, et désormais, c'est à nous de vous congédier.
Un homme crie Amen, la candidate sort de scène, s'offrant comme finale de cette campagne un interminable bain de foule.
Élodie Forêt. Pour le président candidat Emmanuel Macron, dernier meeting cet après-midi à Figeac, dans le département rural du Lot, qui a placé Jean-Luc Mélenchon en deuxième position derrière lui, lors du premier tour. Figeac, une petite ville socialiste avec une histoire industrielle dans un territoire rural, une terre de conquête, où il va, selon son entourage, parler ruralité économique. Car si Emmanuel Macron s'est évertué à contrer Marine Le Pen sur le terrain du pouvoir d'achat lors du débat, pour autant, il n'a pas souhaité rajouter de mesures sociales à son programme. Après le premier tour, c'est un choix assumé, Fabien Cazot.
Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on estime que la meilleure des mesures sociales à proposer, c'est le retour au plein emploi. La décrue du chômage fait rentrer plus d'impôts dans les caisses de l'État, plus de cotisations pour les comptes sociaux, ce qui fait plus d'argent redistribué dans le cadre des prestations déjà existantes. Il faudrait déjà que ceux qui y ont droit y aient véritablement accès, glissent les conseillers qui ont planché sur le programme économique et social. Objectif, diminuer le non-recours qui concerne par exemple 30% des bénéficiaires potentiels du RSA, d'où la mesure de solidarité à la source. Pas vraiment de nouvelles mesures donc. Emmanuel Macron s'est surtout appliqué à mettre en valeur celles qui existaient déjà dans son programme de premier tour, mais qui étaient passées relativement inaperçues, comme le droit opposable à la garde d'enfants. Seule véritable nouveauté, outre l'aménagement possible de sa prochaine réforme des retraites en jouant sur l'âge légal de départ, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé qui serait versée aux bénéficiaires sans prendre en compte le revenu de leur conjoint.
Fabien Cazot, et avant de se rendre à Figeac, Emmanuel Macron sera tout à l'heure l'invité de la matinale d'Inter de 8h20 à 9h30. Pour les deux finalistes, l'enjeu est de mobiliser les 13 millions d'abstentionnistes du premier tour, mais il est un facteur de risque supplémentaire de désintérêt des électeurs, les vacances de printemps. Les trois zones seront en vacances ce week-end avec le début des congés de la région parisienne. Il leur faut donc jusqu'au bout convaincre les hésitants, séduire l'électorat du chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, le plus gros réservoir de voix. Dans la cité populaire de la Rainerie à Toulouse, 4 électeurs sur 10 se sont abstenus. C'est le reportage d'Hugo Charpentier.
Dans le hall d'une barre d'immeuble, Brice, 22 ans, ce jeune homme n'a pas voté au premier tour.
Non.
Et dimanche, ça sera pareil. Le débat à la télé, il l'a vu et ça ne change rien, au contraire.
Je sais pas comment vous dire, j'ai vu quelqu'un qui est manipulateur avec l'argent face à une fasciste. Le racisme contre l'argent. C'est pas bon les deux côtés.
Dans ce quartier où Jean-Luc Mélenchon est arrivé très largement en tête, certains déçus sont quand même prêts à faire barrage.
Ça va pas être simple, mais il faut voter.
Ou au moins, à voter blanc.
C'est une possibilité, comme beaucoup de Français, je pense.
Mais les abstentionnistes du premier tour, eux, ne comptent pas se mobiliser.
Ni premier tour, ni deuxième tour. Parce que je sais que ça changera pas.
Ouria, une habitante d'une trentaine d'années.
On va pas se mentir, c'est pas parce que Marine Le Pen elle va passer qu'elle va arrêter la crise. Ou Macron, on va lui rajouter 5 ans, on va arrêter la crise. Ça va aller de plus en plus mal, donc ça sert à rien que ce soit Jean-Pierre ou Paul ou Marine, c'est pareil.
Renvoyer dos à dos Marine Le Pen et Emmanuel Macron, même ici, plus personne n'hésite à le faire.
Ils sont pareils les deux. Pour moi, ils défendent que les riches. Hein. Mais nous, les gens qui travaillent juste pour payer le loyer, pour payer les charges, il n'y a personne qui nous défend.
Personne pour défendre ses habitants qui s'apprêtent donc nombreux à ne pas choisir entre l'extrême droite et le président sortant.
Hugo Charpentier.
Il est 7h07, Marioupol, ville martyre, Laurence, résiste encore aux forces russes.
Contrairement à ce qu'annonce Vladimir Poutine, le port stratégique de la mer d'Azov n'est pas encore totalement tombé. Des milliers de combattants ukrainiens continuent à défendre l'immense complexe métallurgique Azovstal. Marioupol est assiégé depuis plus d'un mois et compte encore des centaines de milliers de civils coincés sans nourriture, sans eau, sans médicaments, selon le président Zelensky, qui vient d'obtenir des États-Unis une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars. Et il est un pays européen très critiqué par ses partenaires pour ne pas aider suffisamment l'Ukraine, c'est l'Allemagne. Olaf Scholz, le chancelier, fait face à un flot continu de critiques, y compris au sein de son gouvernement. À Berlin, la correspondance de Ludovic Piétenu.
C'est un chancelier encore plus hésitant que d'habitude que l'on a vu cette semaine devant les caméras. Droit dans ses bottes, il masque de plus en plus mal sa réticence à livrer des armes lourdes. De toute évidence, la gêne est palpable, considère le journaliste Robin Alexander, qui suit la chancellerie depuis 12 ans pour le groupe de médias conservateurs Die Welt.
Des semaines ont été perdues à une époque où chaque jour compte. Si l'Occident, dans son ensemble, s'était comporté comme l'Allemagne, Poutine aurait déjà gagné cette guerre.
Ne vous laissez pas impressionner par des voix qui veulent faire croire que l'Allemagne n'assume pas ses responsabilités, a dit hier un proche de Scholz, le patron des députés sociaux-démocrates qui veulent à son secours. Sauf que la vie est partagée par deux alliés au gouvernement, les Verts et les Libéraux. C'est difficile de les ignorer. Surtout quand ils tiennent le même discours que le premier parti d'opposition, les chrétiens-démocrates de la CDU, dont fait partie ce militaire à la retraite, major de la Bundeswehr, le député Johann Wattfuhl.
C'est une grave erreur politique parce que d'autres partenaires de l'OTAN livrent déjà des armes. Les Tchèques, les Britanniques, les Slovaques livrent, les Américains livrent.
Le journaliste Robin Alexander me parle de dissonance cognitive. Tout le monde est en train de bouger, sauf l'Allemagne. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Boris Johnson n'en a pas fini avec l'affaire des fêtes clandestines organisées à Downing Street pendant la pandémie. Le Premier ministre britannique, qui souhaite rester en poste jusqu'en 2024, est désormais visé par une enquête parlementaire. Un revers de plus pour le dirigeant conservateur de 57 ans. Il se retrouve avec une troisième enquête, après d'autres administratives et policières en cours. De nouveaux heurts ce matin entre policiers israéliens et manifestants palestiniens sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem. Il y aurait quelques blessés. Et puis le Texas a exécuté hier soir son plus vieux condamné à mort. Plus de 30 ans après le meurtre dont il a été reconnu coupable et malgré des appels à la clémence d'opposants à la peine capitale, Carl Bunton, 78 ans, a reçu l'injection létale dans la prison de Huntsville. L'homme avait tiré sur un policier lors d'une banale infraction routière. Un suspect mis en examen en Allemagne à la demande de la justice portugaise dans le cadre de l'enquête sur la disparition de la petite Maddie McCann. La disparition de la fillette britannique à Praia da Luz au Portugal avait suscité un émoi international il y a près de 15 ans. Ce rebondissement bombardement intervient alors que les autorités allemandes affirment depuis 2 ans avoir des preuves du meurtre de l'enfant, identifiant un pédophile multirécidiviste allemand déjà en détention comme étant le principal suspect.
Il est 7h10, Nantes, Grenoble et maintenant Béziers. Les affaires de piqûres en boîte de nuit se multiplient.
De jeunes gens piqués à différents endroits du corps pendant des soirées, avec ensuite des symptômes plus ou moins graves, des bouffées de chaleur, des nausées, jusqu'à des douleurs intenses, des paralysies ou même des pertes de connaissance. Un phénomène inquiétant apparu il y a 2 ans au Royaume-Uni, à Londres, Richard Place.
Les premières plaintes ont été déposées dans la région de Nottingham par des étudiantes. À chaque fois, une piqûre au milieu d'une foule dans un bar ou une boîte de nuit, et ensuite, soit une petite douleur, soit des pertes d'équilibre, parfois un évanouissement. En décembre dernier, la police du comté dit avoir reçu 146 plaintes au total. Et pas une semaine ne se passe au Royaume-Uni sans que l'on entende parler d'une affaire de ce genre. Le sujet a même fait l'objet d'un débat au Parlement en début d'année. Des victimes ont été entendues, mais au-delà du constat, les députés n'ont pris aucune mesure. Pas de fouilles plus strictes, par exemple, à l'entrée des pubs ou des nightclubs. Les élus se sont contentés de quelques préconisations, une meilleure formation des professionnels de la nuit notamment, ou un processus de plainte simplifié. Beaucoup de cas mais peu de coupables, selon le chef de la police de Nottingham qui prend tout ça très au sérieux. Si l'agresseur n'est pas pris sur le vif, il est quasi impossible de l'identifier. Londres, Richard Place, France Inter.
De peau d'âne au peuple migrateur, c'était un acteur et un producteur engagé. Jacques Perrin est mort à 80 ans. On se souvient de lui en Maxence, l'amoureux transi de Catherine Deneuve dans Les Demoiselles de Rochefort. Jacques Demy lui confiera également le rôle du prince dans Peau d'âne quand Pierre Schoendorfer le fera tourner dans Le Crabe Tambour en 1977. Et pour la seconde partie de sa carrière, Jacques Perrin mettra son talent au service des animaux et de la nature. Jacques Perrin, producteur, réalisateur, au service du vivant, Amélie Perrier.
Montrer des fourmis et des coccinelles comme des comédiens, en très gros plan, comme dans un film d'action où les gouttes géantes d'une averse menacent de les écraser. En 95, Paris fou de Jacques Perrin qui produit Microcosmos, le peuple de l'herbe. Puis en 2001, il s'envole avec Le peuple migrateur. Cette fois en plus, il réalise 3 ans de tournage pour filmer en plein vol les oiseaux migrateurs, caméra embarquée dans un ULM. Parmi les documentaristes qu'il a inspirés, Vincent Munier nous confie qu'il l'a beaucoup encouragé pour tourner sa Panthère des neiges avec Sylvain Tesson.
Il était un grand amoureux de la beauté du sauvage. Et comment amener la beauté du sauvage jusqu'au cinéma? Il était convaincu de cette utilité de préserver cet équilibre, cette interconnexion entre tous les êtres vivants, et ça, il en avait vraiment conscience.
Un engagement pas seulement dans le cinéma, il le disait à Denis Chessou dans CO2 Mon Amour à propos de l'accélération des catastrophes naturelles.
Ressaisissons-nous et faisons en sorte que ce qui peut être ralenti, que les hommes de bonne volonté, que les gouvernances, etc., fassent en sorte que on fasse quelque chose pour la mer, qu'on fasse quelque chose pour les océans, qu'on fasse pour les forêts.
Jacques Perrin avait soutenu le chef Raoni en Amazonie contre le barrage de Belo Monte et parrainé aussi l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages.
Merci Amélie Perrier.
Et merci Laurence Thomas. Secret d'info dans 3 minutes. Bridge, un nouveau gestionnaire d'EHPAD dans la tourmente.